Bonjour de l'autre côté de l'heure et on va poursuivre en compagnie de Mme Sophie Langteau. Bonjour Mme Langteau, comment allez-vous?
Bonjour, Monsieur Beauregard. Très bien. Merci beaucoup de l'invitation.
Ah, ben ça nous fait plaisir. Mme Langteau, vous êtes architecte de formation et vous êtes aussi, et depuis déjà un bon nombre d'années, directrice générale de Société Logique, dont c'est cette année la 40e année, je pense, d'activité. Société Logique est née en 1981 au cours de l'année internationale des personnes en situation de handicap pour essayer de trouver des solutions de design accessibles et universelles au Québec. Et depuis ce temps-là, bien, vous n'avez pas arrêté.
Effectivement, je dois juste vous corriger un petit peu, je suis pas architecte, j'ai une formation en urbanisme.
Ah, ben je suis désolé, mais ça compte quand même.
Il faut que je précise, c'est important qu'on mette
ben,
bien les bons
gentil.
Chapeaux.
Je m'en
Et
excuse.
Oui, ça fait 40 ans que Société Logique existe, puis notre travail, c'est de favoriser l'inclusion par des aménagements qui sont plus fonctionnels pour tous. Là, on était pionniers de tout ça. Il y a 40 ans, puis moi, ça fait 35 ans que j'œuvre dans cette belle organisation-là.
Souvent, quand on parle d'accessibilité, il y a peut-être un mouvement de repoussoir, comme quoi l'accessibilité, c'est pas joli. Hein? Ça fait des rampes, ça fait beaucoup de tuyaux en métal partout, puis...
En fait, c'est pour ça que nous, on parle de design universel.
Mm-hmm,
c'est vraiment de concevoir les lieux en tenant compte des besoins de tout le monde pour que toute personne, quel que soit son âge et ses habiletés, soit capable d'utiliser l'espace, de s'orienter, mm-hmm. de circuler, de vivre des expériences similaires. Donc, de pas rajouter des éléments qui sont pas
comme
nécessairement...
Comme coller de façon un peu artificielle. Des fois, on a l'impression que l'édifice a été conçu et bâti, puis là... au bas de la dernière page, c'était marqué « Ah oui, il faut une rampe, puis il faudrait qu'il y ait telle chose, puis on va faire ça dans le huitième jour, là, voilà. »
Exactement, puis c'est vraiment ce qu'il faut pas faire, mm-hmm. en fait, si on pense dès le début à des besoins plus larges, puis aux besoins de tout le monde, bien, ce qu'on va trouver, c'est des solutions qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de faire des ajouts. On va utiliser les éléments intrinsèques de notre projet, que ce mm-hmm. soit un bâtiment ou un aménagement urbain, puis on va déployer tout ça pour que ça fonctionne bien pour tout le monde, sans qu'on rajoute des choses, sans, comme vous dites, que ça ait l'air plaqué après parce qu'on mm-hmm. l'a oublié, puis sans que ça génère non plus des coûts supplémentaires. C'est quand on ne le fait pas comme il faut au début qu'après ça, ça coûte cher à corriger.
En fait, c'est plus cher et c'est moins joli. Corriger quelque chose qui existe déjà que de partir à neuf là, avec une consultation en amont. Qui utilise vos services de Société Logique? Qui vous aborde pour dire on a un projet, on doit soit rénover ou rebâtir, bâtir tout neuf quelque chose? On va aller voir Société Logique. Qui se sert de vos services?
Bien, beaucoup les municipalités mm-hmm. ou les grandes corporations qui viennent nous voir parce que, bon, ils ont réfléchi à ces questions-là et ils veulent favoriser l'inclusion, ils veulent favoriser aussi l'embauche des personnes mm-hmm. qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ont eu l'occasion de réfléchir à tout ça. Je vous cacherai pas que les municipalités, les villes qui ont l'obligation de faire un plan d'action pour l'intégration des personnes handicapés depuis quand même plusieurs années, bien, ils ont eu le temps d'absorber là, tout ça puis d'être prêts à passer à l'action. Là. Mm-hmm. Donc, c'est principalement les municipalités.
D'accord. Oui, de ce temps-ci, tout d'un coup, c'est le temps des élections municipales. Là. Alors, Longueuil, Laval, Montréal, tout le monde dit oui, on a un plan d'accessibilité universelle. Là. Vous allez voir, les quatre prochaines années vont être différentes. Alors, c'est à ce moment-là que on espère qu'il vous passe un coup de fil parce que le design universel, puis ça, c'est pas la même chose que l'accessibilité. C'est l'accessibilité, mais c'est beaucoup plus que ça.
Exactement. Ben en fait, le design universel, nous, on utilise ce terme-là en aménagement parce que ça rejoint beaucoup les concepteurs, hein, mm-hmm. Les architectes du paysage comprennent beaucoup plus que ce qu'on veut dire quand on parle de design universel. Puis, tout ce qu'on a dit dans les minutes précédentes, que ça soit intégré au projet puis pas rajouté, mm-hmm. ça fait partie du design universel. Tu sais, dans le fond, on a un projet où on veut préserver le patrimoine, par exemple, ben, il y a des règles, mais le design universel, c'est la même chose. Si on veut répondre aux besoins de tout le monde, ben, on peut le faire de façon harmonieuse. Fait que, il y a vraiment une distinction. Puis le design universel, ça vise pas les personnes en situation de handicap. Ça vise toute la population.
Exactement. Ça va donner comme résultat que, oui, les personnes en situation de handicap vont être mieux servies, vont avoir une meilleure expérience, vont pouvoir plus facilement avoir accès à un lieu et ce sera plus sécuritaire pour elles. Mais ce sera aussi la même chose pour n'importe qui va y être. Un trottoir encombré de mobilier urbain, là, c'est pas plaisant pour personne.
Exactement. Le but, c'est vraiment que ça serve au maximum de citoyens possibles. Mm-hmm. En se référant, c'est un peu comme notre grille d'analyse. Hein. On dit que les difficultés des gens qui ont différentes limitations fonctionnelles, c'est des révélateurs des défis rencontrés par d'autres personnes. Puis si on y apporte une solution qui est intégrée, bien, tout le monde va pouvoir en bénéficier.
Sur le site de Société Logique, vous avez entre autres une série de petites vidéos qui expliquent très bien qu'est-ce que c'est que le design universel. Et entre autres, dans une de ces vidéos-là, il y a une magnifique bibliothèque. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, elle est où cette bibliothèque? Parce que c'est vraiment bien fait, là, l'accès, les comptoirs, les personnes de petite taille, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées visuelles ou qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Là. Tout le monde et toute la population se sent à l'aise dans ce milieu-là. Est-ce que c'est au Québec, cette bibliothèque?
Oui, c'est une bibliothèque qui est dans l'arrondissement Saint-Laurent. C'est la bibliothèque du Boisé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bibliothèque-là, oui, c'est un super exemple de design universel, mais c'est une bibliothèque qui a gagné de nombreux concours d'architecture sans que le design universel soit nécessairement un critère de sélection pour ces concours. Mm-hmm. Donc, okay. C'est
ça fonctionne. OK. Elle n'a pas gagné un prix de design universel, mais c'est le design universel qui lui a permis de gagner des prix parce que j'écoutais la vidéo, comment c'était décrit. Ça donne le goût d'y aller. Puis on se demande pourquoi qui ne voudrait pas, si je peux dire, y passer une après-midi. Vous avez aussi, je pense, une collaboration avec la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal.
Effectivement, la CHAPEM mm-hmm. travaille avec nous pour gérer nos logements, parce que ça, les gens savent pas, là, mais Société Logique, on est aussi propriétaire d'habitation. Mm-hmm. Parce que il y a 40 ans, on a commencé à intervenir en habitation, puis notre nom, c'était Société d'habitation communautaire logique pour Logique Québec.
Ah, OK. Donc, comme ça que le premier projet... il y a 40 ans, de ce qui est Société Logique aujourd'hui, c'était une adaptation ou un édifice de logement adapté.
C'est comme ça que ça a commencé? C'était déjà du design universel.
OK.
Tous les logements sont conçus selon le même concept, puis on ne voulait pas qu'ils soient occupés uniquement par des personnes qu'on appelait des personnes handicapées à l'époque. Mm-hmm. On voulait qu'ils soient occupés par une clientèle qui ressemblait à la clientèle du quartier pour ne pas faire un ghetto. Ça a été, dans le fond, notre premier projet de démonstration, parce qu'on parlait de design universel en théorie. Et là, on se ramène en 81, là,
oui,
en 81.
Oui.
Ça...
le désert était vaste.
On n'en parlait pas beaucoup de design universel.
Oui, oui. Fallait parler fort pour se faire entendre dans le désert.
Exact. Puis c'est pour ça qu'on a choisi l'approche à ce moment-là de faire un projet de démonstration. C'est mm-hmm. on va expliquer ce qu'on veut dire, là, mais on va montrer que c'est faisable. Donc, ça a été notre premier, puis on a réalisé quatre autres par la suite. On a mm-hmm. cinq projets actuellement. On a 170 unités de logement qui sont universellement accessibles. Puis le but, c'est de démontrer que c'est faisable, c'est réalisable pour inciter d'autres à le faire mm-hmm. aussi. Donc, le travail avec CHAPEM, bien, CHAPEM gère nos immeubles, D'accord. gère nos logements. Et CHAPEM est aussi un développeur de logements social et communautaire, donc qui adhère au concept de design universel puis qui le met en œuvre dans les projets qu'il réalise. Donc, c'est une belle entente de collaboration qu'on a avec eux. Là.
Dans le design universel, il y a aussi, je dirais, la conception des espaces urbains, là, hors, mettons, d'une bibliothèque ou d'un logement, mais il y a aussi les rues, les carrefours, ainsi de suite. Puis, c'est parce que là, l'aspect sécuritaire devient d'autant plus élevé parce que là, on commence à partager l'espace avec des véhicules automobiles et c'est pas... c'est pas souvent gagnant-gagnant là, comme situation. Est-ce que vous intervenez aussi à ce sujet-là?
Oui, puis au cours des années, on a rapidement constaté que si on se limitait à l'habitation, c'était pas suffisant pour l'inclusion. Mm-hmm. Donc, c'est là où on a commencé à s'intéresser à tous les autres sujets. Bon, les lieux publics, bibliothèques, on en a parlé un petit peu, mais tout ce qui était les parcs, mm-hmm. les intersections, les rues, les trottoirs, les places publiques, tout ce qui est aussi, on appelle ça maintenant l'urbanisme tactique, là, donc mm-hmm. toutes les interventions qui sont temporaires, éphémères, qui permettent d'apprendre des aménagements puis comment les gens l'utilisent pour après ça les réaliser de façon permanente. Ça fait que toute la question des rues piétonnisées temporairement,
oui, c'est vrai.
Les corridors de distanciation l'été passé dans le cas des mesures COVID, mm-hmm. les abords des chantiers de construction aussi,
c'est oui, tout ça, je peux... sur lesquels on travaille. Ça, Mme Langteau, je peux vous dire qu'à titre de personne handicapée visuelle là, qui se déplace au centre-ville avec une canne blanche, les abords de chantiers de construction, je pense que le design universel n'y a pas encore, ne s'y est pas encore taillé une place. Là.
Oui, ben c'est long, hein, parce que oui. Les chantiers, il y a plusieurs intervenants qui réalisent des chantiers. Les villes réalisent des chantiers pour leur propre bénéfice, mais il y a des propriétaires, mm-hmm. promoteurs privés qui réalisent des chantiers qui nous bloquent le passage. Il y a d'autres grandes corporations, je pense à Hydro-Québec, mm-hmm. Énergie, qui réalisent aussi des chantiers qui sont pas nécessairement tous au même endroit par rapport au design universel, mm-hmm. de la circulation aux abords des chantiers. Il y a encore du travail à faire pour que ça soit fluide, les déplacements là, dans la ville. Là.
Oui, je vous comprends. Quand vous parliez plutôt des mesures temporaires, ça me fait penser, par exemple, je dis ça parce que c'est dans mon coin, la rue Saint-Charles à Longueuil, là, qui devient partiellement piétonnière pendant l'été, mais pas pendant l'hiver. Alors ça vous permet aussi de faire une démonstration de ce qu'est l'accessibilité universelle. Alors, on souhaite longue vie à Société Logique, puis on souhaite surtout que les gens s'en servent, les institutions, les instances gouvernementales. Là, ça devrait faire partie du parcours normal de la mise en place d'un projet.
Oui, puis c'est notre grand défi. Hein? On ne peut pas accompagner tous les projets. Il y en a trop. Avant, les gens n'adhéraient pas au concept. Notre travail, c'était de les convaincre. Maintenant, ils adhèrent de plus en plus au concept. Ils veulent être accompagnés. Fait que notre travail change. On doit les outiller, on doit mm-hmm. les former pour qu'ils soient le plus autonomes possible parce qu'on ne pourra pas accompagner tous les projets.
Du début à la fin. Voilà.
Ouais, donc, c'est nos défis pour les prochaines années. Là. Être capable de déployer tout ça puis de pouvoir mettre notre énergie pour trouver des solutions aux problèmes plus complexes où les solutions
qui vont aller en s'accélérant avec le vieillissement de la population, entre autres. Je vous remercie beaucoup, Mme Langteau, directrice générale de Société Logique et qui fête son 40e anniversaire et on vous en souhaite beaucoup d'autres. Merci.
Merci. Bonne journée.